bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Florence Roche, qu'on connaît bien, bien sûr, pour son dernier roman, Le Reliquaire d'Andrea, Terre de France, aux presses de la Cité. Mais on va la retrouver dans quelques instants pour parler de son dernier roman. Pretty dear, and he shows just a jackknife as Mac Heat dear. Voilà, donc on retrouve notre invité du jeudi, Florence Roche, son dernier roman, Le Reliquaire d'Andrea. Florence, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, c'est ton dernier roman, là. Alors, on va aller se balader dans le 16e siècle, j'ai vu.
Oui.
Tu nous changes un petit peu d'horizon, là, par rapport aux autres romans qu'on a eus il y a quelques temps, hein. Enfin, il y a quelques temps, t'en sors pratiquement un par an, toi.
Oui, ouais, ouais. J'ai eu envie de refaire un roman qui se passe dans l'histoire, mais c'est pas trop pédagogique, c'est-à-dire que l'histoire et l'intrigue prend quand même le dessus. Mais j'avais envie, effectivement, de retourner un petit peu au XVIe siècle. Je l'avais déjà fait avec L'Héritière des Anges, il y a quelques années. Et voilà, là, je repars donc au XVIe siècle avec une héroïne, Héloïse, qui grandit près de Narbonne, sur les terres de l'abbaye cistercienne de Sainte-Claire. Sa maman, elle tient un moulin à huile pour les sœurs. Et voilà, elle grandit très très heureuse, mais elle se rend compte que l'abbesse la protège beaucoup, prend beaucoup de ses nouvelles, est très attentive à elle depuis qu'elle est enfant.
D'accord.
Et cette protection, ça l'intrigue un petit peu, parce que l'abbesse ne s'occupe pas pareillement des autres enfants qui travaillent sur ces terres.
Oui, alors c'est un lieu que tu as inventé ou ça existe vraiment ?
Alors, tout ce qui est règles, des cisterciennes, les monuments et tout ça, je me suis renseignée dessus et donc tout ça s'est vérifié historiquement, mais l'abbaye de Sainte-Claire en elle-même, elle n'existe pas.
D'accord.
Je me suis vachement inspirée de celle de Fontainebleau, en fait, mais voilà, de Fontenot, pardon, mais elle n'existe pas, celle-ci.
Oui, donc c'est toi qui l'as... Tu l'as créé, en fait. Voilà,
voilà. Mais par contre, les règles de vie des sœurs sont celles des règles cisterciennes, quoi.
Oui, donc ça, dans ton roman, tu vas l'expliquer quand même.
Oui, je parle un petit peu, effectivement, de leur vie en communauté, du fait qu'elles n'ont pas trop le droit de parler, même pas du tout.
Ah oui.
Parce que Héloïse, en fait, pour comprendre vraiment d'où elle vient, elle va être obligée à un moment à devenir novice et à entrer derrière les murs de l'abbaye. Donc là, oui, effectivement, je décris un petit peu la vie des sœurs cisterciennes au XVIe siècle.
Oui, parce qu'alors, en fait, elle va faire une rencontre, hein, donc un apothicaire, Aaron Ben Salou.
Oui,
et là, c'est là qu'il lui dit un truc. Heureux de la revoir en vie. Enfin, c'est ça. Donc là, c'est là où ça va l'interroger, elle, quand même.
Voilà, parce qu'elle ne comprend pas d'où Aaron la connaît. Il a à peu près 6 ans de plus qu'elle et tout ça. Elle ne l'avait jamais vue parce que ça. Elle ne sortait pas beaucoup dans Narbonne. Là, c'est l'abbesse qui lui demande d'aller chez l'apothicaire. Et Ben Salou, effectivement, lui dit oh, « Je ne pensais pas que tu aurais survécu. Je suis tellement contente de te revoir. » Alors, elle est vraiment très, très, très intriguée. Et elle est persuadée, effectivement, qu'elle n'est pas la fille de la meunière. Et que pour comprendre tout ça, il faut qu'elle rentre dans l'abbaye.
Oui, alors, bon, ce qui l'a fait rentrer... Enfin, oui, c'est compliqué parce qu'elle est amoureuse quand même, à quelque part, hein.
Oui.
D'un jeune maître drapier donc belge, mais elle se décide justement pour trouver ce mystère à prendre le voile.
Voilà, c'est-à-dire que de toute façon, elle se dit que tant qu'elle ne connaîtra pas d'où elle vient, qui elle est, c'est pas la peine en fait qu'elle reparte tout de suite avec Andrea. Puis Andrea, il a un gros travail à finir pour l'évêque de Narbonne pour lequel il travaille dans son château. Donc, en fait, il faut avant tout qu'elle sache vraiment, vraiment qui elle est avant, effectivement, de partir avec lui, de le suivre, parce qu'ils sont très, très attachés l'un à l'autre.
Alors bon, ben là, ça va demander quand même un petit peu de recherche, même si elle va être au milieu
Des sœurs.
des sœurs, oui, ça je trouvais plus, au milieu des sœurs. Mais donc c'est quand même une vie de recluse, hein.
Ah oui. Après, elle a la chance d'être placée à l'hospice. C'est-à-dire qu'il y avait dans les abbayes cisterciennes toujours en fait un lieu, un hôtel en fait, enfin un bâtiment pour accueillir les pèlerins, les gens qui étaient malades. Et Héloïse, elle a la chance de travailler en fait dans ce lieu qui permet quand même de croiser aussi des gens qui sont des laïcs. Elle n'est pas toujours qu'avec les religieuses. Et notamment, eh ben, va venir travailler dans cette espèce d'hôpital infirmerie pour les laïcs, une mystérieuse guérisseuse, Antonella, qui vient d'Italie et qui fait des merveilles, quoi, qui vraiment, pour l'époque, a des procédés médicaux qui soignent, qui marchent. Et donc, elle va rester un long moment à l'abbaye et se prendre beaucoup d'amitié avec Héloïse en quelque sorte. Et elle porte beaucoup de mystère en elle, Antonella. C'est une guérisseuse en fait qui a une maladie de la peau qui fait en sorte qu'elle est obligée de porter quasiment tout le temps un masque et puis elle évite de montrer sa peau parce que c'est horrible, elle a des plaies qui sont terribles en fait.
D'accord. Alors bon, on comprend peut-être un petit peu plus, parce que si elle était restée qu'au milieu des sœurs, elle communique pas beaucoup entre elles, quoi. Voilà. Alors donc pour apprendre des choses, c'est difficile.
Oui, Antonella va beaucoup l'aider parce qu'Antonella, elle va devenir en fait très proche de l'abbesse et en fait, elle va lui soigner ses migraines et elle arrivera à avoir les clés de toute l'ancienne abbaye en fait. Et c'est en cela que Héloïse va s'en servir, c'est-à-dire qu'elle va réussir elle aussi à un moment à fouiller de fond en comble cette abbaye qui a été restaurée. Parce qu'elle avait été dévastée par un affreux personnage, le comte de Burgos, il y a quelques années de ça, hein, 20 ans avant qu'Héloïse naisse. Et en fait, c'est en fouillant cette abbaye qu'elle va tomber sur un terrible secret datant de son enfance et qu'elle arrivera petit à petit à remonter le fil de son destin et à comprendre d'où elle vient et qui elle est.
Oui, donc c'est toute l'histoire du roman, hein, le reliquaire d'Andrea, mais ça va lui demander quand même beaucoup de perspicacité. Et puis surtout, bah, dehors, on sait qu'Andrea peut-être l'attend toujours, hein.
Oui, bien sûr. Hein. Et ce qui est en fait assez puissant dans l'intrigue, c'est que Andrea, en fait, lui aussi, son destin était lié à l'abbaye, en fait, exactement comme Héloïse. C'est-à-dire que Héloïse, en découvrant ses propres origines, va mettre à jour aussi celle d'Andrea. Et surtout, petit à petit, une fois qu'elle sera sortie de l'abbaye, qu'elle sera un peu mieux qui elle est, alors ça va être très dangereux pour elle parce qu'effectivement, elle n'était pas censée naître, elle n'était pas censée vivre, hein, Héloïse, donc elle va s'éloigner avec Andrea et puis elle va ensuite vouloir absolument retrouver Antonella qui est repartie à Florence. Donc le roman se finit à Florence et puis Héloïse, en retrouvant Antonella, elle fait la boucle et elle comprend absolument toutes ses origines.
Voilà, c'est quand même un certain imbroglio là, hein, parce qu'il va y avoir des croisements, ça va pas être simple, quoi, parce que c'est une recherche qui va durer quelque temps.
Ouais, mais j'aime bien faire durer l'intrigue et j'aime bien tenir les lecteurs en haleine, on va dire.
Oui, ben là, ça va les tenir vraiment en haleine. Alors, ça permet de, comme tu le disais, de parler un petit peu de ces cisterciennes, quoi, qui avaient une vie plus que monacale, hein.
Ah oui, c'était pas gay, hein. C'était pas gay du tout parce que interdiction de parler, plusieurs offices de nuit, et puis surtout les cisterciennes, comme les cisterciens d'ailleurs, hein, ce sont des moniales en fait qui travaillent dans l'abbaye, c'est-à-dire que elles n'ont pas des conditions de vie aussi faciles que les bénédictines. Elles travaillent, elles ont tout un emploi. Il y a la boulangère, il y a celle qui s'occupe de faire les écrits, il y a celles qui s'occupent du linge, il y a celles, mais elles sont en fait, elles travaillent, Elles parlent pas et puis elles assistent aux offices quand il faut, effectivement, à peu près 7 fois sur 24 heures, quoi.
Oui, alors c'est oui, c'est une ville dans la vie, enfin dans l'abbaye en fait, hein, parce que il y a toutes les professions, parce que pour vivre, il faut bien que elles puissent ben, manger. Alors est-ce qu'elles cultivent leur jardin, je pense aussi, parce que ça, c'était un peu la tradition.
C'est ça, elles avaient aussi ouais, des terres. Et puis, elles avaient aussi des terres qu'elles louaient, qu'elles allouaient en fait à des paysans qui travaillaient en fait pour l'abbaye. Parce que souvent, enfin, au XVIe siècle, ils étaient très très nombreux, hein, dans les, que ce soit dans les monastères. Enfin, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Donc, par exemple, la meunière qui est la maman d'Héloïse, elle travaille en fait pour l'abbaye, c'est-à-dire qu'elle produit son huile pour les sœurs et elle a le droit de revendre une certaine quantité. Mais il y avait aussi des, voilà, des paysans ou des paysannes qui travaillaient en dehors des murs parce que, il y avait beaucoup plus de religieux et de religieuses qu'aujourd'hui, quoi, hein. Des fois, des abbayes où il y avait 300 moniales ou 300 moines, quoi. Donc les terres leur suffisaient pas tout le temps, quoi.
Oui, alors bon, on comprend. Alors, il y a quand même des gens qui viennent de l'extérieur, mais ça n'empêche que le secret est bien gardé.
Ah oui.
Puisque
Tout à fait, hein, oui.
c'est pour ça qu'elle est obligée de rentrer dans cette abbaye pour
Ah
de
oui.
devenir novice pour voir comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on lui a sûrement caché des choses. Et c'est là que tout doucement. Elle va faire son enquête, on peut dire ça comme ça, et qu'elle va bah, trouver la fin de l'histoire, quoi.
Oui, une vérité assez terrifiante. C'est-à-dire que après, je rentre aussi de par ce XVIe siècle qui est intéressant historiquement, mais terrible aussi. C'est-à-dire que c'est une époque où il existe encore l'Inquisition, hein, donc il est question d'un sorcier qui a été brûlé vif avant la naissance d'Héloïse, mais n'empêche que ça, c'est un procès qui a eu lieu et qui a été fait par l'évêque de Narbonne. Il est question aussi de la fuite des Juifs d'Espagne. En 1498, Isabelle la catholique demande aux Juifs de se convertir au catholicisme, de quitter son pays, hein, sinon bien ils étaient condamnés aussi au bûcher. Donc j'évoque aussi cet épisode de l'histoire, puisque en fait Aaron Ben Salou, il l'expliquera ça à Héloïse, c'est-à-dire qu'en fait lui, sa famille a dû fuir l'Espagne parce que elle était pourchassée, alors d'abord par les troupes d'Isabelle la catholique, mais aussi par le comte de Burgos qui avait confié à la famille de Ben Salou des orfèvres de faire un très très joli reliquaire, d'où le titre, le reliquaire d'Andrea. Donc j'évoque un petit peu aussi ces deux épisodes très forts et terribles du XVIe siècle, à savoir qu'il existait encore l'Inquisition et les bûchers, et qu'il y a des milliers de Juifs qui ont dû quitter l'Espagne pour aller bah, soit au Maroc, soit beaucoup beaucoup sont venus en France en fait, hein.
Oui,
Et
alors,
souvent des orfèvres.
d'accord. Oui, donc comme quoi l'histoire se répète, hein, puisqu'après, on sait les problèmes qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, pour les Juifs. Donc c'était pas d'aujourd'hui qu'on peut dire.
Non, non, non. Après, ils n'ont pas forcément été mal accueillis en
Oui.
France, mais c'est vrai que voilà, il y avait des familles juives en France depuis très très longtemps. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'en Espagne, tout se passait assez bien. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des Maures, des Arabes, hein, qui vivaient en Andalousie, en Espagne, depuis le 8e siècle. Des Juifs, donc, et puis des Espagnols catholiques. Et ça se passait plutôt bien jusqu'à ce que Isabelle la catholique, ben, justement, devienne déjà reine de pratiquement toute l'Espagne, et puis c'est une catholique, on dirait aujourd'hui intégriste, donc elle va pas supporter ni les juifs ni les musulmans en Espagne, et elle reconquiert, elle fait la reconquista de l'Espagne sur les Arabes hein, qu'elle chasse, et puis les juifs, ils se convertissent ou ils s'en vont.
Ouais, alors bon, on peut dire qu'on est presque dans l'actualité, hein, parce que en ce moment on voit ce qui se passe et c'est une version plus moderne.
En tout cas, on a vraiment l'impression que les humains, ils s'arrangent pas, ils s'améliorent pas, qu'ils tiennent pas, enfin, qu'ils ne retiennent pas les leçons de l'histoire et qu'ils recommencent toujours, toujours et toujours les mêmes guerres, les mêmes qu'ils ont toujours les mêmes prétextes pour se quereller. Voilà, j'utilise la religion qui, au contraire, devrait souder tout le monde, hein, puisque que ce soit dans le judaïsme, le christianisme, ou alors même l'islam, il est dit que l'être humain est sacré, qu'il faut se tolérer. Et ben, voilà, on a l'impression que rien n'a bougé depuis, depuis le 16e siècle et même avant.
Oui, c'est vrai qu'on dit que c'est un éternel renouvellement. Mais alors, on parlait justement des bûchers et tout. Antonella, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Qui...
Ouais.
Et donc, elle était guérisseuse. Alors, à cette époque, les guérisseuses, ce n'étaient quand même pas des gens très respectables. Hein. On ne les aimait pas bien. Je pense que parfois, on les confondait avec des sorcières. Enfin, où on disait que c'était des sorcières parce qu'elles avaient des dons particuliers.
Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Alors, ce ne sera pas trop le cas d'Antonella parce qu'elle va vivre à l'abbaye, ce qu'elle voulait aussi, parce qu'Antonella, elle cherche quelque chose, elle n'est pas là pour rien non plus, quoi. Donc, elle est protégée et elle a vraiment, vraiment des... En fait, elle a vraiment une formation de médecin d'époque, ce qui est assez curieux, mais on comprend à la fin du bouquin pourquoi. Mais par contre, il est clair que dans l'histoire, eh bien, parmi les ancêtres, en fait, d'Antonella, certains, oui, ont été brûlés vifs parce que justement, ils avaient des connaissances de guérisseurs.
Ouais, alors c'est vrai qu'à l'époque, ça présentait pas un des que même des fois sur dénonciation, même si la personne n'était pas forcément ou une sorcière ou quelqu'un de pas respectable pour eux, on transigeait pas là, c'était bûcher direct. Hein. Donc, Florence Roche aujourd'hui est avec nous, le reliquaire d'Andrea. Alors, vous avez bien compris que c'est une longue aventure, comme souvent dans les livres de Florence. Et puis, tout doucement, elle va vous amener à la fin de ce roman, où là, on va tout découvrir d'un coup. Alors, Aaron, Héloïse, Antonella, alors, tous les protagonistes vont... on va dévoiler un peu chacun d'eux, quoi.
Voilà, et en fait, ils sont tous plus ou moins liés par une même histoire, même Andrea, le drapier.
D'accord. Oui, bon, alors, c'est vrai que c'est, il faut les amener, les lecteurs, jusqu'au fond, hein, jusqu'au bout du bout, pour voir ce qui va se passer avec... en fait, c'est Héloïse qui a démarré l'histoire, en fait.
Hein. Ouais, on suit surtout Héloïse, quand même, hein, mais c'est oui. Vrai que... Tous ces personnages, en fait, ils gravitent autour d'elle. Et ben, à la fin, on comprend que, au final, ils sont tous liés par une histoire commune, en fait.
Ah ouais, plus ou moins, ouais, ouais plus ou moins, ils sont liés par le même secret, quoi, en gros. Hein, c'est
et
ça.
Ouais. Un terrible secret, ouais.
Ouais. Et donc, ce terrible secret, on le saura. Vous le saurez donc quand vous aurez lu le livre de Florence Roche. Le reliquaire d'Andrea, c'est au presse de la cité. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce livre, Florence ?
Disons que ça m'a un petit peu changé de repartir dans l'histoire. Et puis que c'est un livre qui a été très plaisant à écrire parce que les personnages sont attachants. La meunière, la maman d'Héloïse, donc c'est un personnage attachant. Ses frères sont attachants. Antonella est une personnalité qui est très trouble aussi, mais je trouve qu'elle est très bienveillante par rapport à Héloïse. Donc, mais à l'inverse, il y a effectivement, peut-être de façon un peu trop manichéen, mais on a ce comte de Burgos qui est ambitieux, qui est violent et qui, on l'apprendra aussi dans le récit, a saccagé l'abbaye parce que il a été très très mécontent de ce qu'a pu faire l'abbesse de l'abbaye à un moment ou à un autre. Donc il y a des bons, il y a des méchants, il y a un peu tous les ingrédients, on va dire, pour que voilà le lecteur tienne le bouquin entre les mains jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que ce que je voudrais bien dire, c'est que c'est pas un roman historique très détaillé, c'est-à-dire que vraiment c'est en toile de fond, en fait, cette abbaye cistercienne et puis ce siècle de l'Inquisition. C'est pas un roman où il faut s'arrêter toutes les pages parce que j'explique en détail la règle cistercienne ou autre, quoi. Ça reste quand même très en toile de fond, on va dire, l'histoire.
Et les frangins là-dedans, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé pour le moment, les frères aussi sont dans le même secret ou pas du tout ?
Et non, parce qu'en réalité, sur ce, enfin, ils sont très protecteurs d'Héloïse, mais à la fin, on se rend compte que finalement, ben, ils sont pas de sa famille.
D'accord. Et alors, où est-ce qu'il
J'en ai un
part?
peu trop dit là, mais
Non,
bon.
non, 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 non. Oui, ce que Héloïse, oui, donc elle rentre novice et ça met pas la puce à l'oreille de la mère, là. Non, elle dit, elle comprend pourquoi elle veut devenir novice.
Elle voulait même, elle cherchait vraiment à la faire rentrer pour la protéger.
Ah,
Pour la
d'accord, voilà.
protéger.
Ouais.
Donc, ça ne lui met pas la puce à l'oreille, ça la rassure. Par contre, elle va vite comprendre que Héloïse fouille l'abbaye et cherche quelque chose. Et là, elle va être très mécontente, par contre.
Ah oui, d'accord, oui, parce que je disais, oui. Héloïse, donc, elle voulait être novice, mais bon, pour d'autres raisons, hein, pas
C'est ça.
forcément des raisons de croyance, hein, ou quoi que ce soit. Alors, bon, on va voir tout cela dans ce roman, hein, le reliquaire d'Andrea, de Florence Roche, et puis, on apprendra à la fin le destin de ces différents personnages, hein, c'est ça.
Voilà.
Alors, toujours la dernière question traditionnelle. Je pense que toi, t'en as un sous le coude, peut-être même qu'il est déjà fini.
Il y en a un qui est en train d'achever là, ouais, tout à fait. Tout
Alors, tu vas nous
à fait.
entraîner où là?
Alors, là, on sera en fait à Vichy, on sera en Auvergne, je suis revenue un petit peu aux racines. Ça va s'appeler À ton reflet dans l'obscurité. Et c'est l'histoire en fait de protagonistes, enfin un couple en fait qui s'aime beaucoup, hein, vétérinaire et puis une jeune femme qui vit dans un haras avec des parents qui sont très très aisés, qui ont beaucoup d'argent et qui perd la vie dans un accident de voiture. Donc on est dans les années d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, on est à peu près 20 ans après. Et cet accident de voiture en fait pour l'époux de Claire, puisqu'elle s'appelle Claire, l'héroïne, c'est une mise en scène. C'est-à-dire qu'il est persuadé que son épouse, dans cette voiture qui a pris feu, hein, donc on n'a quasiment aucune trace vraiment exploitable, il est persuadé en fait que son épouse a pris la fuite. Et il comprend absolument pas pourquoi, alors qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils avaient un enfant, mais il en est quasiment convaincu parce que quelques mois après son décès, il va à Paris chez ses parents parce qu'il est anéanti. Et il croise chez un de ses amis d'enfance, Auvergnat, sa fiancée. Et sa fiancée, elle ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à sa femme. C'est-à-dire qu'il est quasiment persuadé que sa femme l'a quitté, a fait semblant de mourir pour refaire sa vie à Paris.
D'accord, oula, alors ça va être encore une histoire compliquée,
Là, c'est compliqué, là.
hein?
Ça va sortir aux éditions France Loisirs au début décembre, là, 2024.
Oui.
Et ça paraîtra aux presses de la Cité en septembre 2025. Voilà. Comme d'habitude, d'abord en avant-première France Loisirs, puis
Oui,
aux presses de la
oui,
Cité.
c'est toujours en avant-première France Loisirs et après les presses de la Cité. Donc voilà, et t'en as pas un autre quand même en
Si,
tête,
si,
si?
si.
Oh là
Si, parce que en fait, le temps de travailler un roman avec la maison d'édition, les corrections, les
Ouais.
couvertures, etc., etc., en fait, on est toujours à, comment dire, 2 années. En fait, il faut que le roman, que là, celui que je suis en train de terminer, eh ben, en fait, je vise 2027. Il faut 2 ans de travail, en fait,
Ah
pour
oui,
ça.
d'accord. Ah oui, c'est pour
Voilà,
ça
donc.
qu'il y a ce décalage.
Ouais. Donc celui-là, il se passe aussi en Auvergne, à Ambert.
Ah bah tout
Voilà,
près de
là
chez nous.
je fais un retour en Auvergne.
Ah
Voilà.
d'accord. Ouais, bon. Et toujours un peu d'historique dedans?
Oui, parce que là, il sera question en fait d'un moulin à papier qui aujourd'hui est devenu un grand complexe culturel et
Oui.
d'échange qui s'appelle le moulin de Nouara.
Ouais, c'est ça, c'est à côté d'Ambert.
Ouais, tout à fait. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, eh bien, j'explique un petit peu comment se fabriquait le papier chiffon
D'accord.
dans les siècles au Moyen Âge et puis avant qu'il y ait la fabrication du papier à base de bois.
Oui, c'est vrai que c'est toujours resté là-bas, hein, ce moulin. Ils ont perpétué la tradition, puisqu'ils fabriquent même encore, je crois, du.
Celui du Richard Dubas, oui.
Oui, Richard Dubas, voilà.
Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Nouara, il est fermé depuis longtemps. En fait, ça m'a intéressé parce que. Il a arrêté de faire du papier au début du 20e, je ne sais pas. Ouais. Il y a un abbé, l'abbé Duval, qui a fait une colonie pour jeunes enfants. Et c'est en ça que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gamins de la vallée, de la banlieue de Rouen, souvent des gamins aux origines très très modestes, qui venaient à Ambert tous les étés en bus. Et en fait, l'abbé Duval leur faisait découvrir la nature, les cours d'eau, leur faisait faire des jeux. Enfin, il les sortait complètement des quartiers insalubres de Rouen, et il a fait le bonheur de centaines de gamins, ce gars-là, quoi. Donc, c'est mon intrigue, elle va se tenir là, à l'époque de cette colonie, au moulin de Noir.
Oui, c'est vrai que ce moulin, on voit, ils font beaucoup de choses, hein, dans le culturel. Hein, il y a beaucoup de conférences, de spectacles. Et ça a pris beaucoup d'importance sur la région d'Ambert.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vraiment... du coup, j'y suis allée là, pour me renseigner un petit peu sur l'aspect tel qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un complexe hôtelier culturel magnifique. Hein. Franchement... Puis ils ont réussi à conserver beaucoup de poutres, ou alors de mobilier de l'ancien moulin. Il y a encore la roue. C'est vraiment, là, d'un point de vue architectural, c'est très, très bien conçu. C'est magnifique. Hein.
Très bien. Bon, c'est pas très loin de chez nous, pour aller loire. Hein, ça, c'est à côté de chez nous. Donc, voilà. Eh bien, écoute, Florence. Ouais, vas-y. Oui,
ouais, y a beaucoup de colloques, de conférences.
Ouais,
de
c'est
concerts,
ça. On a vu, là, parce qu'on a reçu des trucs.
C'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais.
Écoute, Florence, merci d'avoir été avec nous.
Hein. Merci.
Donc, on attend le prochain, bien sûr, comme d'habitude, avec impatience. Et puis, bonnes vacances. Tu pourras travailler donc un petit peu, là, sur tes bouquins.
Oui, oui.
Merci. Salut, Florence.
Au revoir à tous.
Merci.
Au revoir, Jean-Pierre.
Au revoir.
Salut, au revoir.
Voilà, avec Florence Roche, qui, bien sûr... on la connaît bien, hein, Noumana, elle fait beaucoup de bouquins, des bouquins très intéressants. Et bien, vous découvrirez celui-là, Le reliquaire d'Andrea, Florence Roche, aux presses de la Cité. Et pour terminer cette émission, eh bien, comme on est dans les abbayes, on va écouter le chœur des sœurs. Donc, c'était dans les abbayes cisterciennes, on a parlé beaucoup des sœurs, et bien sûr, elles chantaient, hein, puisque c'était très fermé, mais elles arrivaient à faire des chorales, et on écoute ça.
Oh.
Voilà, donc on va terminer la rencontre avec Florence Roche dans l'invité du jeudi, le reliquaire d'Andrea. Cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée selon quand vous écouterez cette émission.